Radio Okapi. À la présentation du journal, Jacques-Yves Molima.
Publication des résultats de l'examen d'État à Kananga, un finaliste malheureux se donne la mort par pendaison. La nouvelle société civile congolaise condamne l'acte et appelle les parents à encadrer les enfants pendant cette période de publication des résultats. Et puis le calme à la prison de Bounia hier mardi après le soulèvement lundi d'un groupe de prisonniers. Ils protestaient contre l'interpellation de leurs représentants par l'auditorat militaire. Trois détenus ont été blessés lors de cette confusion. Enfin, Jean-Michel Dumont, officier des affaires politiques à la MONUSCO, est notre invité dans cette édition du journal. Il nous parlera du régime de l'embargo sur les armes et particulièrement de la résolution 2641 portant sur le régime des notifications d'armes. Voilà tout pour le sommaire. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Avant d'aller plus loin, sachez que le président de la République reçoit ce mercredi 31 août le serment des hauts magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif. Selon la presse présidentielle qui donne cette information, les hauts magistrats de la Cour de cassation et ceux du Conseil d'État, ainsi que les magistrats des sièges, membres de la Cour des comptes nommés le 27 juin 2022, vont prêter serment aujourd'hui devant le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, conformément à la Constitution. Cette cérémonie qui est organisée au Palais de la Nation se fera en deux temps. D'abord, seuls les magistrats de l'ordre judiciaire et ceux de l'ordre administratif prêteront serment. Ensuite, viendra le tour des membres de la Cour des comptes. Drame à Kananga, au Kasaï central. Un élève finaliste du secondaire s'est pendu pour n'avoir pas réussi à l'examen d'État. Les faits ont eu lieu le lundi dans la soirée après la publication des résultats. Ce jeune homme de 18 ans s'est donné la mort pour n'avoir pas supporté son échec. En réaction, la nouvelle société civile congolaise condamne cette façon d'agir tout en demandant au candidat malheureux de l'examen d'État de ne pas perdre espoir. Son coordonnateur au Kasaï central invite aussi les parents à bien entourer, conseiller et accompagner les enfants pendant cette période de publication des résultats. Albert Ngalamouloumé est au micro de François Kadima.
Cette situation nous inquiète, nous, en tant que défenseurs droits de l'homme. Quelqu'un ne peut pas se donner la mort gratuitement comme ça parce qu'il n'a pas réussi aux examens d'État. Les examens d'État aussi ne sont pas la dernière occasion que Dieu nous donne sur cette terre. Quelqu'un peut aujourd'hui échouer et demain réussir. Il y a des gens qui ont même échoué aux examens d'État pendant 3, 4, 5 fois, mais au finish, ils ont réussi et aujourd'hui, ils ont construit leur vie. Alors, cette mort nous a vraiment inquiétés. Nous profitons de cette occasion pour appeler tous ceux-là qui ont présenté les examens d'État de se contenir, d'avoir une maîtrise de soi, de ne pas se faire du mal. Nous demandons aussi aux parents de très bien accompagner leurs enfants en cette période. Mais pas seulement ceux-là qui ont échoué parce qu'ils doivent être accompagnés moralement et psychologiquement. Même ceux-là qui ont aussi réussi, ils doivent être encadrés.
Pendant ce temps dans la province du Maïndombé, l'examen national de fin d'études professionnelles et des métiers prévu demain 1er au 3 septembre n'aura pas lieu dans le territoire de Kwamout. C'est la conséquence directe de la situation sécuritaire qui prévaut dans ce coin suite au conflit qui oppose les communautés Teke et Yaka. Selon le directeur provincial de l'enseignement de la formation professionnelle et métiers du Maïndombé qui l'est dit, les candidats et les acteurs éducatifs de cette contrée sont actuellement en débandade. Grégoire Kabamba Mouvoitou demande aux autorités, tant nationales que provinciales, d'imposer la paix à Kwamout afin de permettre aux candidats de passer ces épreuves. Il est au micro de Irène Mbouma.
Je vais vous présenter la situation de la formation professionnelle de Maïndombé. À la veille des épreuves de l'examen national de fin d'études professionnelles. La session commence du 1er au 3 septembre 2022. La malle de l'examen était déjà arrivée à Inongo depuis le 23 août. Le déploiement a été fait. Mais la difficulté que nous avons, c'est par rapport à la situation d'insécurité de Kwamout, qui en ce moment où je vous parle, les sous-provèdes, l'inspoul, les candidats sont tous en débandade. Impossibilité d'organiser les prêves en ce moment dans cette partie du territoire, plus précisément à Kouamout. Certains candidats, ils sont dispersés, on ne connaît pas où ils sont. J'ai déjà informé les autorités du ministère. Les dispositions seront prises pour voir si, dans les jours qui viennent, on peut fixer une date. Si ils étaient au même endroit qu'on connaissait, on pouvait même en ce moment essayer de délocaliser les centres. Mais comme ils sont en débandade, nous allons chercher à ce que les calmes reviennent. Avec les autorités, on saura fixer la date qu'ils pouvaient présenter ces épreuves.
En effet, pour amener la paix entre les communautés Teke et Yaka qui vivent à couteau tiré, la délégation gouvernementale conduite par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, qui a séjourné à Kouamout, a décidé notamment du déploiement des militaires dans tous les coins du territoire de Kouamout et de la suspension de l'administrateur du territoire. Jean Ripaté Kabeya, un acteur politique de Kouamout, craint que les consultations menées sur place par Daniel Asselo ne donnent pas de résultats escomptés à cause de l'absence, selon lui, des représentants du peuple Yaka à la table de discussion. À 5 jours de la rentrée scolaire, les responsables du lycée international de Kinshasa se voient interdits d'accès dans les installations de l'établissement depuis hier mardi 30 août. À en croire Misele Zola Kiesse Patrick, promoteur du lycée, cela fait suite à la résiliation du contrat par le bailleur Modeste Bahati Lukwebo. L'avocat conseil du dit lycée indique qu'ils ne se sont pas opposés à l'idée de quitter les lieux, mais demande au bailleur de respecter les préavis de 6 mois délivrés par le service de l'habitat allant jusqu'en février 2023 avant d'interdire l'accès aux lieux. Les propos de maître Marcelin Manzanza ont été recueillis par Philbert Balolagui.
Le lycée international de Kinshasa a pris en location la concession qui appartient à l'honorable Bayati depuis 2018. En 2021, l'honorable Bayati avait résilié les contrats de bail avec préavis qui allaient jusqu'à la clôture de l'année scolaire. Mais mes clients avaient contesté ces préavis par rapport aux prérogatives que la loi communautaire de l'OWADA dispose. Cependant, l'honorable Bayati n'avait pas réagi quant à cette contestation. Arrivé au mois de juillet 2022, l'honorable Bayati va rebondir avec sa résiliation des contrats. Nous avons contesté ça également. Nous sommes allés au niveau de l'habitat. Sur demande de l'honorable Bahati, un préavis a été accordé au lycée international de Kinshasa de 6 mois allant du 11 août 2022 au 11 février 2023. Malheureusement, malgré ces préavis légaux tant voulus par lui, nous sommes surpris de constater qu'on a renforcé les policiers autour de la concession et même dans la concession. On interdit à mes clients d'entrer dans la concession et de travailler. Nous ne sommes pas opposés à la résiliation du contrat. Nous devons quitter les lieux, quoi que ce soit.
Contacté, l'avocat conseil de Modeste Bahati Lukwebo n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet. Cependant, dans une correspondance du 2 août dernier adressée à Misele Zola, il est écrit que le lycée international de Kinshasa avait signé un contrat non professionnel pour un usage social administratif en 2018, mais sans accord du bailleur et de manière unilatérale, l'objet du bail a été violé en y exploitant une école. Nous l'avons dit au sommaire, mesdames et messieurs, le calme est revenu hier mardi matin à la prison centrale de Bounia, chef de la province de l'Ituri. Cela après le soulèvement la veille d'un groupe de détenus dans cette maison carcérale pour protester contre l'interpellation de leurs représentants par l'auditorat militaire, ce qui a suscité la colère des détenus qui sont montés sur le toit en jetant des projectiles sur des agents de l'ordre qui ont tiré plusieurs coups de feu en l'air pour maîtriser les manifestants. 3 détenus ont été blessés et le portail de la prison endommagé. Retour sur le fait avec Ezekiel Mouzalia.
La grogne des détenus à la prison centrale de Bounia a éclaté lundi après-midi. Selon les responsables de cette prison, tout est parti de l'interpellation du représentant des détenus communément appelé Capita Général par l'auditorat militaire. Un acte que les détenus ont mal interprété, pensant à une extradition de leur leader. Pour manifester leur colère, ils ont monté sur le toit et ont commencé à jeter des projectiles sur les agents commis à la garde de cette prison. La police a répliqué par des tirs de sommation pour maîtriser les manifestants en attendant l'intervention de l'unité commando des FARDC. 3 détenus ont été blessés dans cette confusion et le portail de la cellule endommagé, indique le directeur de cette prison, le colonel Camille Zonzi.
Le soulèvement a poussé les détenus de monter sur toutes les toitures parce que nous avons des blocs et des blocs. Ils ont commencé à lasser les projectiles et l'armée et la police comme état donné qu'ils sont commis pour la sécurité de la prison. Ils ont tiré des tirs de sommation. Il y a eu que 3 blessés par les projectiles. La balle n'a pas atteint quelqu'un. Mais la situation est déjà sous contrôle et s'est normalisée.
Ce mardi, l'administration pénitentiaire a décidé de suspendre temporairement les visites à la prison centrale de Bounia en attendant le rétablissement de la situation. Entre-temps, les voix s'élèvent pour demander le désengorgement de cette prison qui compte à ce jour plus de 2300 détenus pour une capacité théorique de 500 places. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Entre-temps, Kwilu, un détenu est décédé le lundi 29 août dans la prison centrale de Gungu. Après un monitoring effectué ce même jour dans cet établissement carcéral par le chef du parquet et la société civile, le constat est que plusieurs autres prisonniers sont dans un état de santé déplorable. Dans le souci d'éviter d'autres décès, le chef de parquet a décidé de libérer quelques détenus dont l'état de santé était préoccupant. Joachim Kusamba, le président de la société civile de Gungu qui donne cette information, attribue les décès des détenus aux mauvaises conditions carcérales dans cette prison. Il a été joint par Irène Mbouma.
Mort d'un détenu à la prison centrale de Gungu, il y a toute une équipe qui est descendue à la prison centrale, entre autres le procureur, chef de parquet de Gungu, le bourgmestre, le président de la société civile. On est allé faire l'état des lieux de la prison. À la fin de compte, il y a sur les 11 identifiés dont leur état de santé est précaire. Le chef de parquet a décidé de libérer ces 6. Il va poursuivre donc cette libération jusqu'à ce qu'il y ait l'effectif de 11 personnes sur les 70 détenus qui sont à la prison centrale de Gungu. Il présente un état de santé vraiment précaire et un amaigrissement total. Si on doit les laisser encore à la prison, pratiquement on risque encore de connaître beaucoup de cas de décès. Alors comme ils ont des infractions mineures, on a pensé qu'ils soient libérés. Les jeunes détenus de cette prison centrale ne sont pas en bon état de santé. Ceux qui sont malades manquent de soins, puis il y a aussi la gale qui frappe certains détenus. Alors à l'hôpital, donc le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Gungu est d'approvisionner rapidement les prisonniers en produits ainsi que d'affecter rapidement un infirmier, voire même un médecin qui pourra commencer à traiter ces prisonniers.
Ouvert le lundi 29 où les travaux des états généraux du sport se poursuivent à Kisantu, au Congo central. Hier mardi, les panélistes ont fait des exposés avant commission devant les membres de toutes les commissions réunies dans la grande salle de réunion de Mbuela Lodge. Enoch Matondo, qui se trouve sur place à Kisantu, nous donne d'amples détails.
Plusieurs propositions ont été émises pour Al Kitenge, invité spécial du ministre des Sports et Loisirs à ses travaux et ancien président de la Fédération de Karaté du Congo. Il pense que le sport en République démocratique du Congo doit d'abord se reposer sur l'athlète. Il doit avoir des infrastructures adéquates pour bien exercer son travail en ayant les moyens financiers et techniques, notamment la licence. Renforcer également le sport scolaire, digitaliser le domaine sportif, ceci dans l'organisation et dans la pratique financière. Le management des sports doit être de mise afin que la République démocratique du Congo ait des médailles dans les compétitions internationales. Il faut également générer le budget pour cela. Il faut aussi un diagnostic sérieux et bien gérer les finances en sport. Si possible, créer une industrie locale de fabrication des équipements sportifs. Définir également les modalités de travail si la République démocratique du Congo veut avoir un sport de haut niveau. De son côté, Christophe Boucher, expert international, a parlé de la façon dont il faut accompagner les États généraux. C'est une belle ambition de faire les États généraux, mais il faut à la fin avoir une structure qui va pouvoir contrôler l'application des résolutions. Il va accompagner les États généraux, surtout dans la partie pratique, après les travaux ici à Kisantu, afin de voir comment est-ce que les résolutions seront mises en pratique. De Kisantu au Congo central, Enoch Matondo, Radio Okapi.
Et puis, initialement prévu en 2020, Kinshasa est reporté à 2 reprises. Les 9e Jeux de la Francophonie se dérouleront finalement en 2023. À moins d'une année de ces travaux, les infrastructures sportives qui abriteront ce jeu peinent à finir. Pour la plupart, elles sont encore au niveau de la fondation. Qu'est-ce qui bloque le finissage de ces travaux? Vanessa Kongolo, reportage.
Sur terrain, visiblement les travaux n'avancent pas, s'inquiète le directeur de jeu Isidore Kwanja.
Bon, ici, quand tu regardes ce gradin-là, ça date d'il y a un édavit, et puis ici à l'intérieur, il n'y a rien.
Et pourquoi? Les responsables de l'entreprise Jana Pama évoquent le problème administratif.
Préfabriquer, on a besoin de plans, vous êtes en train de travailler. Financement, ok, il y a. Financement, je crois, il y a l'argent. Mais le problème, c'est, comme on a dit, c'est la situation administrative. À mon avis, ça embête tout le monde. À mon avis, la francophonie, elle a besoin d'une direction à part.
Problème de financement et d'omission de certains besoins pour ceux de l'ABC, Alliance des bâtisseurs du Congo. Pour d'autres, l'approbation des études de travaux par l'agence de grands travaux s'est fait encore attendre. Le directeur de jeu promet des mesures fortes.
Et si vous construisez ces infrastructures pour
concours léger de la francophonie, il y a des délais. Parce qu'on ne va pas reporter une troisième fois. Au cas contraire, nous serons dans l'obligation de trouver des entrepreneurs qui peuvent faire le travail à temps.
Signalons que les 9e Jeux de la francophonie sont prévus du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa.
Autre nouvelle, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté le 30 juin 2022 la résolution 2641 portant sur le régime de notification sur l'achat des armes en République démocratique du Congo. Cette question a suscité beaucoup de réactions au sein de l'opinion congolaise, poussant de nombreux citoyens à croire qu'il s'agit là d'un embargo sur les armes que voudrait acquérir la RDC. Cette résolution est-elle comprise ou elle est victime des désinformations, grâce à Mzati?
Dans cette résolution, le Conseil de sécurité se déclare préoccupé par la persistance des groupes armés nationaux et étrangers dans l'est de la RDC et par les souffrances qu'ils infligent à la population civile du pays. Dans la dernière résolution 2641, le Conseil de sécurité a reconduit le régime de notification d'armes en République démocratique du Congo, qui n'est pas à confondre avec un embargo sur les armes. C'est ce que pensent certains experts, parmi eux Jean-Michel Dumont, officier des affaires politiques à la MONUSCO. Il explique.
Il est demandé aux fournisseurs d'armes de notifier au Conseil de sécurité que telles ou telles armes ont été fournies aux forces régulières du gouvernement de la RDC. Et le type d'armes qui sont concernées a été réduit dans la dernière résolution. Donc maintenant, il ne s'agit plus que d'armes légères, en fait. Donc si le gouvernement achète des chars ou des avions ou des bateaux, etc., les fournisseurs ne doivent pas notifier. C'est simplement s'il s'agit d'armes légères et de petit calibre et des munitions. Il n'y a pas d'embargo sur les armes que voudrait acquérir la RDC.
D'autres experts congolais proposent que cette résolution soit bien vulgarisée par toutes les parties afin de dissiper les malentendus au sein de l'opinion. C'est le cas du professeur Augustin Kaindo Mwesi, enseignant des sciences politiques à l'université de Goma et à l'université catholique de Graben à Butembo au Nord Kivu.
Il faut suffisamment communiquer sur, ce que beaucoup appellent faussement embargo, et essayer de démontrer à travers une communication, responsable, c'est que la RDC a réussi à gagner.
Notons que ce régime de notification d'armes en RDC a été reconduit jusqu'au 1er juillet 2023.
Actualité internationale.
L'une des figures politiques majeures du XXe siècle, Mikhail Gorbatchev, est décédé hier mardi à l'âge de 91 ans à Moscou. Dernier secrétaire général du Comité central de l'Union des Républiques soviétiques socialistes, URSS, puis premier et dernier président de l'URSS, il aura passé 6 ans au Kremlin de 1985 à 1991 lors de la chute du bloc.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition du journal Jean-Michel Dumont, officier des affaires politiques à la MONUSCO. Il nous parle du régime d'embargo sur les armes et particulièrement de la résolution 2641 portant sur le régime des notifications d'armes en République démocratique du Congo. Jean-Michel Dumont s'entretient avec Grassa Mzati. Suivez.
Jean-Michel Dumont, bonjour.
Bonjour.
D'entrée de jeu, c'est quoi la différence entre un embargo et un régime des notifications?
Un embargo, c'est l'interdiction de fournir, un embargo sur les armes, c'est une interdiction de fournir des armes, et une notification, c'est une demande qui est faite par le Conseil de sécurité aux pays qui fournissent des armes de notifier, donc de faire connaître qu'il y a une fourniture d'armes et de fournir les détails sur cette fourniture. De telle manière qu'on puisse éventuellement, si ces armes se retrouvent entre des mains à qui elles n'étaient pas destinées, qu'on puisse tracer comment ces armes sont parvenues, par exemple, dans les mains d'un groupe armé.
Alors, combien de résolutions y a-t-il eu en République démocratique du Congo sur la question des armes et de l'embargo? Et
la première résolution concernant un embargo sur les armes à l'égard, à la destination de la RDC, a été adoptée par le Conseil de sécurité en 2003. Et depuis lors, il y en a eu une vingtaine.
C'est quoi la différence entre ces anciennes résolutions et la résolution actuelle dont on parle?
Excellente question. Il y avait au départ, en 2003, une résolution qui prévoyait un embargo sur les armes à destination de la RDC et qui, plus loin dans le texte, disait qu'il y avait des exceptions à cet embargo qui étaient les fournitures destinées aux forces intégrées de l'armée, les FRDC, qui étaient en train de se constituer en 2003, et de la police nationale congolaise, ainsi que les fournitures destinées aux forces des Nations Unies. Ensuite, en 2008, parce qu'il y avait une confusion et un certain nombre de gens pensaient que l'armée ne pouvait pas se fournir en armes. On a changé l'architecture de cette résolution et après un paragraphe introductif, le paragraphe 2 expliquait que l'embargo sur les armes ne concernait pas les forces régulières, donc l'armée et la police de la RDC. Cette résolution maintenant, si on regarde le texte de cette résolution, on ne trouvera nulle part le mot embargo, ni le mot sanction d'ailleurs. Il y a juste deux fois le mot notification et il est demandé aux fournisseurs d'armes de notifier au Conseil de sécurité que telles ou telles armes ont été fournies aux forces régulières du gouvernement de la RDC. Et le type d'armes qui sont concernées a été réduit dans la dernière résolution. Donc maintenant, il ne s'agit plus que d'armes légères, en fait. Donc si le gouvernement achète des chars ou des avions ou des bateaux, etc., les fournisseurs ne doivent pas notifier. C'est simplement s'il s'agit d'armes légères et de petit calibre et des munitions. Mais il faut dire aussi que des résolutions de ce genre, il en a existé et il en existe encore pour un certain nombre d'autres pays. La RDC n'est pas du tout dans le seul pays à être dans le cas. Par exemple, il y en a eu, et c'était un de véritables embargos, pour l'Angola, pour le Libéria, pour le Sierra Leone, pour la Côte d'Ivoire pendant une petite période, pour la Somalie, pour le Soudan du Sud. Et ces résolutions qui ont été bien appliquées ont permis d'arriver à en finir avec les conflits dans ces pays-là. Donc c'est quelque chose qui est en principe efficace.
Alors dites-nous, y a-t-il un embargo sur les armes que voudrait acquérir la RDC ?
Il n'y a pas d'embargo sur les armes que voudrait acquérir la RDC. La RDC peut acheter toutes les armes qu'elle veut, du moment que, évidemment, ce sont des armes qui sont destinées aux forces régulières.
Et pourquoi cette demande des notifications des ventes d'armes à la République démocratique du Congo ?
Le fait est qu'un certain nombre d'armes se retrouvent entre les mains de groupes armés. Et c'est une des raisons de la persistance des conflits qu'on constate notamment malheureusement à l'est de la RDC depuis tant d'années. Et ce que le Conseil de sécurité souhaite, c'est qu'on en finisse et qu'on puisse empêcher toute fourniture d'armes à ces groupes. À partir de ce moment-là, ils auront difficile à se battre contre les FRDC. Sur la résolution, je crois que c'est important aussi parce qu'il y a eu de la désinformation ou de la mauvaise information de la part de certaines personnes. Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres. C'est le Conseil de sécurité qui adopte ce type de résolution. Et il n'y a aucun membre du Conseil de sécurité qui a voté contre cette résolution. Il y a 10 pays qui ont voté pour. Et il y en a 5 qui se sont abstenus, juste abstenus. Parce que si parmi les 5, il y avait notamment la Russie et la Chine, pour la première fois, mais si un de ces deux pays avait voté contre, il n'y aurait pas de résolution. Parce que ces deux pays ont chacun, comme 3 autres membres permanents du Conseil de sécurité, ont le droit de veto. Donc quand ils votent contre une résolution, il n'y a pas de résolution.
Pour terminer, qu'est-ce que vous allez dire à toute la population, surtout dans la partie est du pays, par rapport à cette résolution ?
Que l'armée congolaise peut acheter toutes les armes dont elle a besoin et que la seule raison d'être de la résolution telle qu'elle est actuellement est d'essayer d'empêcher le transfert d'armes destinées à la RDC mais qui se retrouveraient entre les mains de groupes armés.
Jean-Michel, je vous remercie.
Je vous en prie, avec plaisir.
Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.